Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler de Downton Abbey, pas la série mais le film, et de Fromage de Chèvre. Oui, je vous rassure, ce sont deux sujets différents. C'est Laurent Mariotte et Olivier Benkemoun qui seront à la manœuvre. Il y aura évidemment dans l'émission, par ordre d'apparition, Héloïse Goy pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et en fin d'émission, Marc-Antoine Lebray et ses stories. Notre infomédia autour de ce coup de tonnerre dans la communication mondiale. Le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs de Twitter sur toute la planète et surtout, qu'est-ce qu'Elon Musk compte en faire? Après son rachat, l'homme le plus riche du monde a tweeté ceci. Ensuite, je vais racheter Coca-Cola pour y remettre de la cocaïne dedans. On en est là. Explication avec deux très bons connaisseurs du dossier, journalistes, tech et médias. Christophe Agius et Philippe Chéreau ensuite, ce sont les voix du catch en France. Ils présentent pas moins de 3 émissions sur la chaîne AB1. Le catch revient en force, pas seulement en France. Il touche désormais 180 pays dans le monde, 650 millions de foyers dans 25 langues. Et puis, enfin, Yves Bigot, lui aussi touche beaucoup de gens parce que c'est le patron de TV5 Monde, première chaîne francophone planétaire, mais il est également auteur, l'un des meilleurs connaisseurs de la musique et il publie une biographie tout court. C'est Michel Berger, nouvelle édition augmentée. Attendez-vous à des révélations musicales et des secrets d'alcôve. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
L'ARCOM, l'ex-CSA, menace de suspendre 2 sites pornographiques. Une quotidienne bientôt arrêtée sur France 5. Et puis 15 ans après le décès de Grégory Lemarchal, les chaînes TF1 et TMC lui rendent hommage ce week-end. On en parlera avec le père du chanteur.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
En première place, TF1, un joli coup d'envoi pour Une mère parfaite. Cette nouvelle série policière avec Julie Gayet et Hélène Ducourant que vous receviez hier a réuni 3 880 000 téléspectateurs. C'est 20,3% du public devant sa télévision.
On leur a porté chance.
Deuxième place pour M6 qui diffusait du football. Le match Rotterdam-LOM a réuni 2 650 000 téléspectateurs, soit 13,1% de part d'audience. Et puis une troisième place pour France 3. Ma famille t'adore déjà, la comédie de Jérôme Commandeur avec Thierry Lhermitte a attiré 2 041 000 téléspectateurs. C'est 9,8% de part d'audience.
Et puis une audience très attendue, le complément d'enquête hier soir à 23h sur France 2 consacré à PPDA. Nous recevions l'auteur du reportage, Romain Verlet. L'audience
1 720 000, c'est un très gros score. C'est 19,3% de part d'audience. C'est un record de saison pour complément d'enquête.
Culture Média.
On ouvre ce journal avec l'ARCOM, l'ex-CSA qui déteste ce qu'on appelle le gendarme de l'audiovisuel, mais il y a un petit peu de ça. Il s'occupe également du numérique et l'ARCOM menace de suspendre 2 sites pornographiques.
Oui, les sites YouPorn et RedTube disposent de 13 jours à compter d'aujourd'hui pour bloquer leur accès aux mineurs. Autrement, ces sites pornographiques risquent un arrêt de leur service sur décision judiciaire. Début mars, l'ARCOM avait déjà saisi la justice pour demander le blocage de 5 autres sites pornographiques. On vous en avait parlé ici. Le régulateur soulignait déjà que ces interfaces n'étaient pas en conformité avec les règles de protection des mineurs.
Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'ARCOM reproche précisément à ces sites?
En fait, ces sites sont trop facilement accessibles pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, il suffit simplement de cliquer sur une case qui vous demande de confirmer que vous êtes majeur, ce qui veut dire que c'est très très facile pour les mineurs de mentir. Et cette fois, malgré des demandes de clarification, l'ARCOM a constaté que YouPorn et RedTube n'avaient pas pris de nouvelles mesures. Les sites restent toujours aussi facilement accessibles pour les moins de 18 ans. Alors si dans 13 jours, la justice décide de bloquer ces sites pornographiques en ordonnant aux principaux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher leur accès, eh bien les internautes seront renvoyés vers une page dédiée de l'ARCOM.
Alors, si vous reconnaissez ce générique, c'est que vous êtes très jeune ou vous sortez de l'école très tôt. C'est celui de l'émission C'est Jamie sur France 5, émission qui va prochainement s'arrêter, nous dites-vous.
Et oui, ce magazine de 26 minutes, diffusé tous les jours à 16h55, est animé par Jamie Gourmaud depuis un peu plus d'un an. Cette émission, vous le disiez, est surtout adressée aux jeunes. Elle aborde des sujets d'actualité de manière très ludique. Et selon les informations de Pure Média, ce programme s'arrêtera définitivement à la fin du mois de juin. Gaël Leblanc, l'un des producteurs de l'émission, s'est exprimé auprès de nos confrères et selon lui, cette décision décision n'a rien à voir avec le succès de l'émission, qui a connu plus 30% d'audience depuis son lancement. Il s'agirait simplement d'un arbitrage de France 5. Selon Médiamétrie, effectivement, ce programme réunit en moyenne depuis la rentrée 280 000 téléspectateurs, soit 3,7% de parts de marché à cette heure-là. Alors si l'émission C'est Jamy s'arrêtera prochainement, Jamy, lui, continuera de co-animer avec Églantine Émeillé Le Monde de Jamy, programme diffusé en prime time sur France 3 depuis 2014.
Dans l'actualité également, on parlait du cinéma, cinéma et judiciaire, un procès et une pétition. L'ex-épouse de Johnny Depp, Amber Heard, pourrait bien être retirée du casting d'un film à cause d'une pétition qui a récolté contre elle plusieurs millions de signatures.
2 309 000, très exactement, c'était le chiffre il y a quelques minutes. C'est le nombre de personnes qui ont signé une pétition qui demande d'exclure Amber Heard du film Aquaman 2. Pour ceux qui n'ont pas vu Aquaman 1, elle tient un des rôles principaux du film puisqu'elle joue le rôle de la femme du héros Aquaman. En cause, le procès en cours qui oppose l'actrice et son ex-mari Johnny Depp. L'acteur a attaqué son ex-femme en diffamation suite à des accusations de violence conjugale et d'agression sexuelle. Amber Heard avait fait ces accusations dans un article paru dans le Washington Post en 2018. Et suite à cette parution, Johnny Depp s'était fait virer de Disney. Disney qui produit les films Pirates des Caraïbes. Il avait aussi été exclu du casting de la saga Les Animaux Fantastiques. Et face à ce qu'il considère comme une injustice, les fans de Johnny Depp ont donc lancé cette pétition pour retirer Amber Heard du casting d'Aquaman 2. Et le nombre de signatures de cette pétition a explosé depuis le début du procès, le 11 avril dernier, notamment parce que devant le juge, Johnny Depp assure que son ex-femme était violente avec lui. Alors je rappelle qu'Aquaman 1 avait remporté un très beau succès au box-office au début de l'année 2018. Il s'agit même du plus gros succès de DC Comics dans le monde. Le tournage du deuxième volet serait en cours et le réalisateur du film ne s'est pas encore prononcé sur cette pétition. La sortie d'Aquaman 2 est prévue pour mars 2023.
Et on termine avec la voix de Grégory Lemarchal que vous entendez. TF1 et TMC rendent hommage au chanteur 15 ans après son décès.
Il s'était fait connaître dans Star Academy. Il avait remporté la saison 4 de l'émission en 2004. Il avait ensuite enregistré un album dans lequel figurait sa chanson la plus célèbre, Écris l'histoire, vous l'entendez ici. Le 30 avril 2007, il s'est éteint à l'âge de 24 ans des suites de la mucoviscidose. Et 15 ans plus tard, le groupe TF1 lui rend hommage ce week-end avec notamment la rediffusion du film « Pourquoi je vis » sur TMC dimanche à 21h05, film qui raconte sa vie, sa courte carrière. Tout le week-end, des appels aux dons seront également réalisés pour l'association Grégory Lemarchal, association créée par les parents du chanteur pour aider les patients atteints par la mucoviscidose. Pierre Lemarchal, le papa de Grégory, nous explique pourquoi il est important pour lui et sa femme que ces chaînes continuent de rendre hommage à leur fils.
C'est important parce qu'ils ont été là depuis le début, en fait. Et pendant tous ces 15 ans, ils ont toujours avec nous, été avec nous pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Dans ce style d'association, on a besoin d'appui média, évidemment. Et tant qu'on peut les avoir, c'est exceptionnel. Donc, pour nous, on a cette chance d'avoir un partenariat de cœur avec le groupe TF1. Voilà, c'est une fidélité qui nous touche. Et à chaque fois, ils répondent présents quand on leur demande quelque chose. Pour les 10 ans de l'association, on a fait une émission en prime time qui nous a rapporté 2,2 millions d'appels aux dons avec les donateurs. Et ça nous a permis de construire une maison qui accueille des gens atteints de mucoviscidose à Rueil-Malmaison. Donc c'est un gros projet qui était dans nos têtes. Et ça nous a permis de construire cette maison, cette somme. C'est aussi la sensibilisation des gens. Pour nous, l'intérêt aussi, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait de leur argent. Quelque chose de concret.
Parmi les hommages rendus aux chanteurs sur ces chaînes, Nikos consacrera un sujet à l'association samedi à 17h30 dans 50 Minutes Inside. Et puis l'un des concerts les plus emblématiques de Grégory Lemarchal sera rediffusé dimanche soir à 10h10 sur TMC. J'ai demandé à Pierre Lemarchal quels avaient été pour lui les plus grands moments de télévision de son fils.
Je crois que le moment le plus fort, et c'est une chanson qui revient souvent sur les écrans, c'est quand il a interprété les SOS d'Intérieur en détresse. Jamais les pieds sur terre, j'aimerais bien être un oiseau. Grégory, quand il a chanté ses chansons, c'est après, je me suis vu sortir de moi pour me regarder chanter, en fait. Les mots sont tellement forts et ça lui correspondait vraiment. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu l'interprétation de « Et maintenant » de Beko aussi à la finale. Et maintenant, que vais-je faire ? Et surtout, il y a eu le, La fierté de voir notre fils chanter à l'Olympia. Voilà, je pense qu'il a fait une courte carrière, hein. Ça a duré 2 ans et demi, mais qui était pleine d'émotions, et il a profité un maximum du temps qu'il avait pour pouvoir dire des choses.
En plus de tous ces rendez-vous que vous pouvez revoir ce week-end sur TF1 et TMC, si vous souhaitez plus d'informations sur l'association Grégory Lemarchal ou si vous voulez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site www.association-grégorylemarchal.org.
Voilà, et c'était une chanson de Michel Berger qu'on entendait, Michel Berger dont la biographie est signée Yves Bigot. On va en parler dans la deuxième heure de l'émission. Merci beaucoup Héloïse Goy et bon week-end. On voit Héloïse Goy qui danse. Vous êtes un bon week-end lover. C'est ce titre de Dizzy's que nous avons reçu pour votre plus grand plaisir. En fait, on était obligé par vous de le recevoir. On en était ravis. C'est aujourd'hui votre dernier jour à la présentation du Journal des Médias. Alors, merci pour tout. Les auditeurs de Culture Média vont continuer à vous entendre dans les indispensables en deuxième heure de l'émission. On s'en réjouit. Et lundi, retour de Louise Bernard pour le Journal des Médias. On s'en réjouit également. Bon week-end.
Merci Philippe.
Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour. On va revenir sur l'annonce de la semaine qui fait trembler le monde des médias et peut-être un peu le monde tout court. Le rachat de Twitter par Elon Musk, qu'a-t-il derrière la tête? Quel avenir pour le réseau social? On en parle avec deux spécialistes très bons connaisseurs du dossier, journaliste de Numérama Nicolas Lelouch et journaliste de Télérama, son confrère Olivier Tesquet.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est un coup de tonnerre dans la communication mondiale. Le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars, 41 milliards d'euros. Twitter compte 436 millions d'utilisateurs sur la planète. C'est considérable, mais c'est 6 fois moins que Facebook, par exemple 2 milliards 850 millions d'abonnés. Oui, mais Twitter est le réseau privilégié des stars et surtout de la presse et des médias, et donc la plus formidable caisse de résonance à l'échelle du globe. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour les utilisateurs de Twitter? Dans son communiqué, le patron de Tesla et de SpaceX, parce que c'est la même personne, a précisé qu'il souhaitait faire la chasse aux robots et authentifier tous les comptes personnels. Sur le papier, c'est plutôt une bonne chose. Et pourtant, des voix, de nombreuses voix, s'élèvent des deux côtés de l'Atlantique pour dénoncer la mainmise du réseau social par l'homme le plus riche du monde. D'autant que lui-même ne fait rien pour rassurer. Après cet achat, il a tweeté ceci. Ensuite, je vais acheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. Fin de citation. On en est là. Le dossier est complexe. Alors pour séparer l'info de la provocation, pour comprendre les enjeux d'un tel changement capitalistique, je reçois deux très bons connaisseurs de la technologie et des médias. Bonjour Olivier Tesquet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste du numérique. Et Nicolas Lelouch, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Numérama, chef de la rubrique Tech. Les deux noms se ressemblent, Télérama, Numérama, mais ça n'a rien à voir. Télérama, tout le monde connaît. Comment vous présenteriez Numérama, Nicolas Lelouch?
Numérama, c'est un site d'information qui traite de plusieurs thématiques. On est surtout un média sociétal aujourd'hui, mais on va aussi beaucoup parler de nouvelles technologies, beaucoup parler de santé, beaucoup parler d'automobile, particulièrement l'automobile électrique et toutes ces transitions-là. Donc on est présent en ligne et sur toutes les plateformes sociales, que ce soit YouTube, Twitter et Facebook, et évidemment.
Olivier Tesquet, dans Télérama, vous donnez la parole à une universitaire américaine spécialiste de ces questions. Je reviens à notre sujet qui est le rachat de Twitter par Elon Musk. Elle s'appelle Leila Morsch et elle pose ce qui est le cœur de notre interrogation du jour. Elle dit, à partir du moment où un milliardaire a décidé d'acquérir un réseau social économiquement non viable, c'est qu'il a forcément une idée derrière la tête. Oui, mais laquelle selon vous? J'ai commencé par la question la plus difficile. Alors, comme ça, on est débarrassé.
Si on essaie de lire l'avenir dans les tweets d'Elon Musk, on n'est pas rendu, ouais. Hein, parce que c'est un peu compliqué. Il a de toute évidence une idée derrière la tête, parce que depuis l'annonce de ce rachat, d'ailleurs tout ça s'est fait en l'espace de quelques semaines. Hein, Elon Musk a manifesté son intérêt il y a très peu de temps. Il a dit « je veux acheter Twitter » et 10 jours après, il a acheté Twitter.
Twitter a dit « impensable ».
Voilà. Et pour une somme qui est quand même une somme assez considérable. Et depuis le début de la semaine, il n'arrête pas d'envoyer des signaux, alors parfois assez contradictoires, pour essayer d'expliquer ce qu'il veut faire. Pour moi, Elon Musk, il est engagé depuis le début dans une espèce de mission civilisationnelle. La conquête de l'espace, la révolution des transports et aujourd'hui la liberté d'expression. Donc ça veut dire que pour lui, la liberté d'expression, la sauvegarde de la liberté d'expression est une mission civilisationnelle. Qu'est-ce que la liberté d'expression selon Elon Musk? Je crois que c'était avant-hier soir, là dans la nuit, il a mis un tweet qui, à mon sens, résume peut-être le mieux sa position. Il disait « je pense que Twitter doit être politiquement neutre, c'est-à-dire que ça doit autant frustrer l'extrême droite que l'extrême gauche. Sauf que la position médiane dans laquelle il se trouve, il a partagé un autre graphe ensuite où on voit, il met la droite et la gauche et puis il se situe. Et on voit quand même que Elon Musk, il penche de plus en plus vers la droite, justement. Donc on est en droit de se poser quelques questions par rapport à ses promesses.
Voilà, alors lui, ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas là, je vais le défendre, c'est qu'il ne dit pas qu'il penche de plus en plus vers la droite, il dit que le monde penche de plus en plus vers la gauche et les woke et que de fait, sa position n'a pas varié, mais qu'il se retrouve dans le camp qu'il ne souhaitait pas, si j'ai bien suivi le dessin. C'est ça l'idée.
C'est en effet sa théorie. Il dénonce depuis plusieurs mois, plusieurs années, les positions de certaines plateformes comme Netflix, qui selon lui virent sur des messages gauchistes qui ne sont pas bons pour la société. Et il se voit un petit peu comme sauveur du débat public en rachetant Twitter, parce qu'il pense qu'il va pouvoir un petit peu rééquilibrer tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude qui va dans son sens. Et Twitter lui-même avait publié une étude en octobre 2021 qui nous révélait qu'aujourd'hui, l'algorithme privilégie les contenus de droite et d'extrême droite aux contenus de gauche. Donc, dans tous les cas, ce que dit Elon Musk est un petit peu déformé, même s'il peut y avoir des évolutions sur la plateforme.
On est dans le cœur de notre sujet, parce qu'après, on va parler concrètement les modifications qu'il souhaite apporter. Et une de celles-ci, c'est de rendre l'algorithme transparent. C'est un algorithme secret. On va en parler de cet algorithme. Il a tweeté ceci, Elon Musk. « J'espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression. » C'est une attitude voltairienne. C'est « Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Est-ce que selon vous, il est sincère ou est-ce que c'est de la posture ?
Pour moi, c'est de la posture. C'est de la posture, c'est des effets d'annonce, et ça résiste de toute façon pas à l'épreuve des faits, parce que Elon Musk, grand ami de la liberté d'expression, a quand même à son passif un certain nombre de messages, de tweets qui montrent que, en fait, il est pas tant ami que ça de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il avait quand même été condamné, par exemple, par la justice pour des tweets qui s'opposaient très vigoureusement à une quelconque organisation syndicale à l'intérieur de Tesla. On sait qu'il y a beaucoup de débats sur le management à l'intérieur des usines. Il est contre les syndicats, comme à peu près tous les patrons de la Silicon Valley. Et la justice avait dit, bah non, en fait, monsieur Musk, non seulement vous avez pas le droit, mais en plus, c'est illégal. Donc, sa liberté d'expression, sa définition de la liberté d'expression, elle est un peu à géométrie variable. Et là, on a un peu l'impression que ses détracteurs peuvent rester tant que, finalement, on est entre milliardaires qui se battent à fleur et moucheté. Sauf que le débat public, c'est pas ça.
Alors, on va parler des mesures concrètes, parce que certaines, on se dit, c'est frappé du sceau du bon sens et on peut qu'approuver, en tout cas moi-même. Je vais donner celle-ci. J'ai commencé par ça. Virer les robots, c'est-à-dire les faux comptes générés par ordinateur et qui se recopient les uns les autres. C'est pas une bonne chose, ça ?
Ça serait une excellente chose. Et il faut aussi reconnaître que dans cette transaction, il y a des bonnes idées et c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez ces derniers jours. Twitter, c'est pas une entreprise qui est bien gérée. C'est une entreprise qui est très mal gérée, qui perd de l'argent, qui perd de l'argent depuis des années et qui a toujours eu des polémiques internes parce qu'ils ne sont pas capables de fonctionner correctement. Donc Elon Musk, sur certains aspects, c'est un très gros utilisateur de Twitter. Il peut améliorer les choses.
Sur le cas des robots, je vais donner une étude. J'ai trouvé ce papier dans la Tribune. Une étude sur l'activité des robots informatiques sur Twitter qui a montré que près de la moitié des comptes qui publient des tweets à propos du Covid-19 sont probablement des robots. Donc là, c'est bien si ça disparaît.
Oui, mais comment ? C'est toute la question. Elon Musk dit qu'il aimerait vérifier l'identité de tous les utilisateurs. Mais est-ce qu'on imagine vraiment un réseau social de l'ampleur de Twitter nous demander notre carte d'identité pour tweeter ?
Alors là, il y a du bien et du pas bien. Parce que si le réseau cesse d'être anonyme, ça va faire mécaniquement cesser les insultes. Je pense pas seulement aux ministres, je pense aux profs qui se font insulter, je pense même à des élèves et au harcèlement scolaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, si le réseau est anonyme, que se passe-t-il en Chine ? Que se passe-t-il en Russie ?
Tout à fait.
Pour pouvoir tweeter. L'anonymat protège, comme le vote en France est secret et protège de notre sincérité.
On a des exemples ces dernières années de gens qui se sont retrouvés devant les tribunaux pour des discours de haine et parfois ils l'ont fait sous leur propre identité. Hein. Donc pour moi, cette question sur le pseudonymat, c'est un faux débat. Et après, sur la question. Alors je pense que c'est un faux débat parce que déjà, il y a plein de gens qui, pour des raisons multiples, ont intérêt à cacher leur identité pour ne pas subir les remontrances de leur employeur, pour ne pas subir les remontrances, ou pire, d'un régime autoritaire, ou parce qu'ils appartiennent à certaines communautés où c'est plus facile en fait, de s'exprimer sous un pseudonyme, et pas forcément pour déverser des atrocités. Hein. Donc c'est un rapport de pouvoir qui est parfois un peu déséquilibré. C'est-à-dire que nous, là, ici dans ce studio, aucun de nous trois a de problème à s'exprimer sous son identité parce qu'on fait des métiers qui sont des métiers publics. Pour plein de gens, cet anonymat, ce pseudonymat, il est une garantie justement de leur liberté d'expression.
Oui, mais traiter une députée noire de sale singe, s'il n'y a plus d'anonymat, ça s'arrête.
Mais du coup,
enfin, je le souhaite.
Il faut dans ce cas-là des mesures de justice. On lève l'anonymat et puis on traduit cette personne en justice.
Et Elon Musk ne veut pas combattre l'anonymat. Il veut juste combattre les robots. Mais en soi, le pseudonymat, donc, qui permet de se cacher derrière un identifiant et une photo de profil avec un animal, ça, il n'a pas l'air d'être contre. Donc, dans tous les cas, ça ne réglera pas le problème parce qu'il faut rappeler que sur Internet, on n'est jamais anonyme. On peut se cacher derrière un pseudo, mais on peut être retrouvé quoi qu'il arrive.
Vous vouliez parler des algorithmes. Je ne voudrais pas qu'on traite le sujet rapidement. On marque une courte pause. On est avec Nicolas Lelouch de Numérama, Olivier Tesquet de Télérama. Ils n'ont pas racheté Twitter, mais ils en parlent. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de cet achat annoncé par Elon Musk du réseau Twitter. 44 milliards de dollars, on connaît la somme. C'est pas encore tout à fait fait. Restez, on va vous expliquer pourquoi l'opération risque de ne pas se faire. Nous sommes avec Olivier Tesquet de Télérama, grand connaisseur du dossier du numérique et de la tech également. Nicolas Lelouch de Numérama. On en parlait justement, Nicolas Lelouch. Elon Musk veut débrider totalement Twitter. Il veut rendre transparent ses algorithmes, c'est-à-dire les processus qui mettent en avant tel message plutôt que tel autre. De mon point de vue, de beaucoup de gens, c'est plutôt sain, non ?
C'est plutôt sain et c'est surtout ce qui est souhaité par les autorités européennes et les autorités du monde entier depuis plusieurs années qui réclament de la transparence de tous les réseaux sociaux. Après, c'est comme tout ce qu'on dit depuis le début avec Elon Musk, il y a un décalage entre la réalité et la faisabilité des choses.
Ce qui vous inquiète, c'est pas qu'il le fasse, c'est qu'il ne le fasse pas.
Non, il peut le faire. Il peut demander aux ingénieurs de Twitter de publier le fonctionnement de l'algorithme. Le truc, c'est qu'un algorithme, ça évolue quasiment tous les jours et que tout ce qu'on a remarqué dans le passé avec des algorithmes publiés librement, c'est que quand les autorités disent pourquoi cet algorithme a favorisé tel contenu, pourquoi il a favorisé tel biais raciste par exemple, les réseaux sociaux se défendent en disant « Ah mais l'algorithme il a évolué entre-temps, il y a eu une version mise à jour ». Donc finalement, certes, ça nous permettrait de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne Twitter, mais ça serait compliqué de savoir réellement en permanence comment ça fonctionne. Plus ça permettrait aux publicitaires ou aux politiques, par exemple, de manipuler l'algorithme à leur faveur en comprenant comment ça fonctionne.
Évidemment.
Donc, il y a un risque.
Olivier Tesquet.
C'est pas un langage intelligible, un algorithme. C'est-à-dire que si vous soulevez le capot de la voiture pour essayer de voir ce qu'il y a dans le moteur, si vous comprenez pas ce qui est en train de se passer, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un peu un effet d'annonce. Et puis ensuite.
Non, mais là on a bien compris. C'est les informaticiens.
Il y a des gens qui comprennent.
Il y a des informaticiens qui vont.
Il y a cette question des audits, de la transparence des algorithmes. Effectivement, ça fait quelques années au niveau européen, notamment, c'est une grande question. Et puis ensuite, il y a deux choses que je trouve assez contradictoires. C'est d'un côté dire on va lutter contre les robots et de l'autre on va ouvrir l'algorithme, c'est-à-dire que tous les gens qui justement poussent des contenus inauthentiques sur les réseaux sociaux, eux, si vous leur donnez la recette de l'algorithme, c'est formidable parce que du coup ils peuvent augmenter la viralité, ils peuvent trouver tout un tas d'astuces pour contourner l'algorithme. Vous leur donnez un peu les clés du camion en disant faites ce que vous voulez. Donc je suis toujours un peu dubitatif sur cette annonce d'ouvrir l'algo.
Autre annonce d'Elon Musk dont il réclame l'application depuis des mois et des mois. Pouvoir modifier ses tweets après publication. Qu'en pensez-vous ? Cette mesure touche qui et quoi ? Moi, je disais parfois, j'aime pas les fautes d'orthographe. Si je laisse passer une faute d'orthographe, je suis content de revenir en arrière. Mais il y a une levée de bouclier, expliquez-moi pourquoi.
Alors moi, je suis comme vous, hein, là-dessus. Cette fonction d'édition des tweets, je la rêve depuis longtemps.
Ah bon ? Et, moi, c'était juste pour l'orthographe. Mais pourquoi ça pose problème ?
Moi, c'est pareil. Hein, c'est parce que je suis très à cheval là-dessus. Mais le monde dans lequel on vit, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des campagnes de désinformation qui se montent sur les réseaux sociaux. Il y a une attention particulière qui serait portée au caractère inauthentique de certains messages. C'est déjà suffisamment compliqué à gérer au jour d'aujourd'hui. Si demain, on a la possibilité d'éditer des tweets, ce qui reviendrait à antidater certaines choses, par exemple. Enfin, si on devait faire un équivalent, c'est un peu la même situation. Forcément, ça rend la tâche plus difficile pour ensuite déterminer, je sais pas, par exemple, dans notre travail de journaliste, si on doit évoquer la prise de parole d'un politicien sur Twitter et puis qu'en fait, entre-temps, il a dit l'inverse de ce qu'il avait écrit, ça peut devenir un peu compliqué à gérer.
Vous voulez dire quelque chose,
Nicolas Lelouch ? Je dirais que Twitter, c'est le réseau social de l'instantané, donc c'est aussi pour ça qu'on aime l'idée qu'il puisse y avoir des erreurs sur Twitter et que quand on retweet un message, le fait de pouvoir faire évoluer son contenu, on peut parfaitement imaginer quelqu'un qui met un message absolument pacifique et qui, pour la blague, va le modifier en faisant un appel à la haine. Et s'il a déjà des milliers de retweets parce que c'est une personnalité connue, ça peut poser problème. Après, je reste quand même, à titre personnel, en faveur de la modification des tweets, si c'est bien encadré avec un historique, par exemple, comme on a sur d'autres plateformes.
Alors, il se passe quelque chose pour Elon Musk. D'abord, il était vu comme une sorte de génie, comme un Wonder Boy. Il est très populaire, 86 millions d'abonnés sur son compte. 86 millions d'abonnés, juste un mot, c'est davantage que toute la population française, juste pour situer le personnage. Il donne des conférences dans lesquelles viennent plus de 15 000 personnes qui brandissent des pancartes à sa gloire. Et puis, on dirait qu'il est passé du camp des gentils au camp des méchants, des vilains, comme on dit à Hollywood. Que s'est-il passé dans sa tête, selon vous ? On ne va pas faire de la psychanalyse, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a toujours été comme ça, de toute façon,
bon,
Elon Musk. Oui, c'est une personne qui adore qu'on parle de lui, qui adore faire des grosses choses, qui adore dépasser les limites.
Non mais là, insulter Bill Gates le présentant comme un homme enceint, en plus accuser un confrère, accuser un milliardaire, accuser un compatriote, il n'avait jamais fait ça.
Non,
là il a franchi une limite.
Là-dessus, il a un peu limite. Après, il a déjà eu des comportements très limites. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, il y avait une histoire de sauvetage avec des enfants coincés dans une grotte, et on avait refusé son aide, donc il avait traité les sauveteurs de pédophiles. Donc Elon Musk a toujours été une personnalité controversée qui n'a pas peur d'abuser d'éléments de langage sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, c'est pas tellement surprenant. Après, je pense qu'il fait une erreur en allant sur Twitter pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait Tesla, quand on fait SpaceX, donc les voitures et les fusées, on est vu comme quelqu'un qui veut sauver l'humanité, on est vu comme une personnalité qui, certes, peut être controversée, mais qui, dans tous les cas, apporte du bien à la société. Avec Twitter, il risque juste de s'exposer à des scandales façon Facebook, et je l'imagine bien face au Congrès, face à l'Union européenne, comme Mark Zuckerberg, et à devoir se justifier de choses qu'il aurait pu éviter.
Ça serait peut-être un peu différent, effectivement. Si, enfin, moi, j'imagine Elon Musk auditionné par le Congrès, je pense qu'il arrive en cabriolet avec un Stetson sur la tête et un spectacle pyrotechnique juste derrière. Mais je suis assez d'accord avec cette analyse parce que je parlais de cette espèce de mission civilisationnelle au début. Là, il met les pieds dans un endroit, dans une pièce où il a que des coups à prendre. Et il le sait d'ailleurs, parce que quand il a manifesté son intérêt pour racheter Twitter, il a dit « on va me détester pour ça, et de toute façon, quoi que je fasse, on va me détester ». Donc, est-ce qu'il le fait sciemment, en sachant que ça va lui attirer que des problèmes ? Peut-être. Peut-être aussi qu'il sous-estime la difficulté qu'il y a à réguler, pas seulement Twitter, parce que là, on parle de Twitter tout à l'heure, mais en fait, c'est la conversation publique. C'est trouver des règles pour que la conversation publique et la conversation collective soient vivables. C'est un débat qui agite les sociétés depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Donc, prétendre que Musk va pouvoir résoudre le problème d'un coup de baguette magique en quelques mois, ça semble un peu compliqué.
On n'a pas encore parlé d'argent. Elon Musk souhaite également que Twitter dépende moins de la publicité. Vous allez me dire pourquoi. Il souhaite élargir l'offre payante, notamment pour les comptes authentifiés. Déjà, première chose, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que si on veut suivre des comptes authentiques, il faudra payer pour ça.
C'est une possibilité qu'il a évoquée. Il a aussi évoqué la possibilité de faire payer les médias qui veulent intégrer un tweet sur leur site. Ça paraît absolument utopique. Je ne vois pas comment c'est possible. Mais en fait, d'un côté, il va avoir besoin de rentabiliser Twitter pour rembourser l'achat. Mais d'un autre, vu qu'il retire Twitter de bourse, il est plus dépendant des actionnaires, il est plus dépendant du fait de rendre des comptes. Donc si Elon Musk veut faire un Twitter sans pub et s'il se dit vraiment défenseur de la liberté d'expression, il peut tout à fait dire « bon, bah, l'argent, de toute façon, je l'ai dépensé et j'ai fait ça pour le bien commun ». C'est peu probable. Mais il y a quand même une possibilité pour lui de ne pas forcément gagner de l'argent avec ce réseau social.
Il y a également un cadre juridique. On a dit qu'il avait tweeté parfois des tweets très négatifs à l'encontre de Bill Gates et aussi à l'encontre de Vijaya Gade. C'est une cadre très importante sur Twitter. C'est la juriste qui est en charge de la sécurité. Il a publié sa photo en incitant indirectement des millions de followers à se moquer d'elle. Pour quelle raison ? Est-ce que ça ne peut pas lui retomber dessus ?
Alors, pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, elle est considérée comme responsable de la censure ou de l'invisibilisation de certaines informations. Alors, notamment, il y avait eu des articles très critiques sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden. On sait qu'il y a des théories du complot qui se sont montées autour de ça. Alors, le petit souci, c'est que dans l'accord financier autour du deal de Twitter, il est bien dit, il est écrit noir sur blanc que Elon Musk a tout à fait le droit de commenter l'acquisition sur Twitter, mais qu'il n'a pas le droit de dénigrer l'entreprise ou ses représentants. On voit que, comme souvent avec lui, il a fallu quelques heures à peine pour que cette clause-là soit violée, ce qui d'ailleurs pourrait à terme remettre en question la faisabilité du deal. Hein. Moi, j'exclus pas que d'ici la fin de l'année, ça capote pour X ou Y raison parce que il passe son temps en fait à violer les termes selon lesquels ils se sont mis d'accord.
Mais c'est pas encore fait, hein.
C'est pas encore fait.
Ils ont un accord qui a été signé, donc comme tout accord, ils engagent les deux parties à être respectées, mais il y a une clause dedans qui dit que Twitter ou Elon Musk peut renoncer à cet accord, mais devra payer une pénalité de 1 milliard de dollars à l'autre.
Alors, il y a une clause intéressante, ce qui est que parmi les clauses qui ne peuvent pas susciter une rupture du contrat, il y a le fait que des attaques contre Elon Musk, c'est-à-dire si la personnalité d'Elon Musk suscitait des critiques, c'est pas un motif valable pour se retirer du deal. C'est-à-dire que s'il prend des sauts de merde, pour dire les choses clairement, sur la tête, voilà, s'il prend ça sur la tête, il peut pas se retirer. Ça fait partie du jeu.
Selon l'agence Bloomberg, j'aimerais bien connaître l'ambiance chez Twitter en ce moment. Selon Bloomberg, depuis lundi, Twitter empêche ses employés de faire des modifications du code informatique de la plateforme sans l'accord d'un vice-président. Pourquoi ? Pour éviter tout sabotage interne.
Oui, ils ont peur que des employés protègent Twitter d'Elon Musk en mettant des antidotes contre son changement pour la liberté d'expression. Ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est que Twitter ne voulait pas être racheté par Elon Musk, ne voulait pas se vendre dans l'immédiat. Mais on pourrait en parler des heures, la manière dont Elon Musk a piégé Twitter. Il est d'abord devenu investisseur en rachetant 10% des parts. Il a ensuite proposé un accord à l'amiable, puis l'a rompu à la dernière minute, avant de faire une offre en disant « c'est simple, soit vous me rachetez, soit je vous attaque en tant qu'actionnaire parce que vous n'avez pas le droit de refuser une offre aussi bonne ». Donc Twitter n'avait pas le choix.
Dernière question à tous les deux, si Twitter passe effectivement sous le contrôle d'Elon Musk, est-ce que vous allez conserver votre compte ?
Nous, on n'est pas la bonne population à qui demander, parce que dans le cadre de notre activité, moi, j'ai du mal à imaginer ne pas être sur Twitter, parce que précisément, on exerce une profession.
Je vais poser la question différemment. Allez-vous conseiller à vos amis d'y aller?
Alors non, mais je leur conseillais déjà de se tenir à l'écart. Hein. C'est-à-dire que
moi, c'est je suis pas d'accord.
Mais après, il y a du bon et du mauvais.
Olivier Tesquet et puis Nicolas Lelouch, le mot de la fin.
Moi, je dirais aux gens de rester sur Twitter. Sous réserve que tout se passe bien et avec en tête le fait que si en effet Twitter devenait incontrôlable, que s'il y avait des conflits d'intérêts qui poussaient Elon Musk à faire des modifications qui étaient dangereuses pour les gens, oui, il faudrait partir, mais se désinscrire maintenant, comme il y a des mouvements, et comme à chaque fois qu'il y a un rachat, les gens partent au dernier moment, je pense que c'est absolument prématuré et que s'il faut, ça va très bien se passer. Je doute qu'il y ait énormément de changements en réalité.
Merci beaucoup pour ces éclairages et ces lumières. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama. Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama. Dans un instant, un autre duo, mais c'est tout à fait autre chose. Du catch, mais du catch au sens propre du terme. On sera avec les deux voix du catch en France. C'est Christophe Ajus et Philippe Chéreau. On les entend sur la chaîne AB1. C'était venu il y a 2 ans. Ils avaient 2 émissions. Maintenant, ils ont 3 émissions. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Quel son, quelle musique. Bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Philippe Chéreau.
Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes prénom magnifique.
Ouais, merci beaucoup. Vous êtes les deux voix du catch. Je suis pour rien, c'est mes parents qui me l'ont donné. On vous entend sur la chaîne qui est devenue la référence du catch en France, c'est AB1. Qui dit catch dit musique métal, comme on peut l'entendre derrière nous. Pourquoi c'est devenu la musique officielle de la discipline?
Parce que vous adorez le métal aussi, je crois que c'est pour
oui,
ça.
Oui, mais quand même, faire 2 heures d'émission avec du métal dans les oreilles, je pourrais
alors,
pas.
Alors, il n'y a pas que du métal, mais c'est vrai que...
Ah, vous passez rarement du Vivaldi.
Non.
Voilà, pas forcément du Vivaldi, mais...
Ainsi par les Zarathoustra, c'est l'un des thèmes les plus connus.
Mais évidemment.
D'une superstar qui n'est plus là, mais sa fille l'a repris, remixé, ça s'appelle Assis par les Zarathoustra, et c'est le thème de la famille Flair.
Voilà, mais c'est aussi la musique de Odyssée de l'espace.
Tout à fait,
c'est Wagner,
tout
c'est
à
bien
fait.
Ça.
Ouais.
Mais en tout cas, il n'y a pas de Vivaldi, les 4 saisons, c'est pas pour vous.
Non, pas les 4 saisons, mais il y a d'autres musiques classiques qui sont jouées. Il y a eu l'hymne à la joie pendant longtemps, qui était la musique d'entrée de Triple H à ses débuts. Enfin voilà, non, il y a de tout, il y a du hip-hop aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas de Brassens, hein. Malheureusement.
Alors, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ensemble. Vous étiez venu souffler vos bougies, les 20 bougies, dans Culture Média il y a 2 ans. Philippe Chéreau, on vous invite alors que Paris va accueillir un grand événement de catch ce week-end. Le WWE, le
WWE SmackDown Live Event.
C'est demain à l'Accor Arena. D'abord, quel est cet événement? Et ensuite, vous nous direz le programme.
Alors, déjà, on est très contents parce que Covid oblige. Un peu comme tout le monde, on a subi hein, pendant plusieurs années. Donc ça a été reporté, annulé. Mmh. Et là, ça y est, ils sont enfin là. C'est une tradition après WrestleMania, qui est le Super Bowl du catch, qui a lieu une fois par an. En général, ils font une tournée européenne. Voilà, nos amis de la WWE font une tournée européenne. Ils s'arrêtent en France, enfin à Paris. Donc c'est ce samedi. Et ils vont faire en fait la même chose que ce que l'on voit à la télé, mais pour nous, en live.
C'est-à-dire, racontez, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu. Il y a combien de combats? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des pom-pom girls? Est-ce que, j'espère qu'il y aura un petit peu de métal dans les oreilles.
Mais c'est effectivement comme aux États-Unis. C'est simple, c'est de la musique forte, effectivement, mais pas que. Il y a du hip-hop, il y a du métal, il y a de la musique classique qui joue à fond dans l'Accor Hotel Arena. Il y a le public qui est surchauffé, qui crie d'un côté pour encourager certains les méchants, d'autres les gentils, qui chantent. Et puis, il y a effectivement des combats. C'est une soirée entière de combats avec les gentils contre les méchants et des superstars qui passe par-dessus la 3e corde. Mais t'es obligé de la faire. Ça y est, Philippe, vous allez voir.
Mais j'attendais pas. Mais non, si au contraire, j'attendais. C'est, si on n'a pas le classique, vous voyez ce que je veux dire.
Il faut le faire avec nous avant la fin de cette émission.
Voilà, il faut jouer le jeu. Est-ce que la soirée de demain, Philippe Chéreau, sera enregistrée pour une diffusion télé? Et est-ce que vous allez participer à l'événement? Comment ça va se passer, le rapport entre ce qui se passe dans l'Accor Arena et AB1?
Très bonne question.
Merci beaucoup.
Le principe d'un live event, c'est de ne pas être télévisé.
Ah bon?
Voilà.
Pourquoi?
Parce que comme ça, c'est un événement à part. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des matchs parfois qui sont uniques, avec des réactions du public qui sont exceptionnelles, parce que les superstars jouent avec le public. Et plus le public est chaud, et c'est souvent le cas à Paris ou en France de manière générale, là c'est à Paris ce week-end, mais dans le passé on a fait un peu le tour de France, et c'est vrai qu'ils adorent la réaction du public français, qui est l'un des plus chauds d'Europe.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font dans la salle de spectacle qu'ils font pas à la télévision. Je peux vous dire comment c'est pour les humoristes, ils osent des vannes qu'on peut faire que parce que vous avez 800 ou 2000 personnes qui ont payé leur place, qui serait impensable de passer devant un public familial et ensuite repris sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne font pas à la télé?
C'est exactement la même chose, effectivement. Bon, pas au niveau des vannes, parce que ce sont pas des humoristes, mais c'est comme le disait Philippe, Chéreau, pour le coup, l'interaction avec le public. En réalité, tout est très calibré quand c'est des shows télévisés, parce qu'il y a plusieurs caméras, c'est très scénarisé, le catch est scénarisé, ce n'est pas un secret.
Il y a un format respecté.
Voilà, il y a les publicités aux États-Unis toutes les 15 minutes, donc dans un live event, ils ont le temps de pouvoir jouer avec le public, d'arrêter un peu le combat, de le faire durer ou de le raccourcir s'ils sentent que le public n'est pas trop dedans, mais en général, c'est le contraire. Donc ils vont sortir, aller dans le public, jouer avec les gens, parfois même s'asseoir à côté d'eux. Enfin...
Est-ce que les règles changent? Est-ce que parfois ils mettent un coup interdit, comme quand vous voyez les matchs de vétérans? Il y a des matchs de vétérans le dimanche matin, la balle va sortir, le gars fait une petite main pour la remettre, pour pas s'arrêter. Ça vous fait rigoler, donc deux fois ils le font.
Des fois, en fait, ils se font des vannes entre eux.
Ah.
Alors, quand on a l'habitude, et les fans qui connaissent bien attendent ça et repèrent ça. Des fois, ils cherchent à se faire rigoler, ils se font des... Comme nous, par exemple, tu passes à la radio, tu vas chez Vandel, tu dis, je sais pas, un mot, genre banane, voilà, c'est bon, j'ai gagné banane, voilà, c'est bon, j'ai un resto gratos ce soir avec Ajus. Mais voilà, en fait, c'est ces petites choses qui font la différence, et c'est ce qui fait le sel de ces événements.
Alors, je vais parler de télévision, vous étiez, il y a 2 ans, sur AB1, avec 2 rendez-vous, maintenant c'est 3, vous pouvez les raconter, vous les avez en tête, vous avez les horaires.
Quand même, merci, non mais ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'on est là.
On est à l'émission. Ah,
il a réussi à,
ce matin,
avec ses Christophe.
Non, bah
écoutez, ce matin, nous sommes à l'émission 619 de Culture Média.
Magnifique.
On a reçu plein d'invités, garçons ou filles, qui ne connaissaient pas leur horaire de diffusion.
Oh là là là. Déjà, on est en direct tous les mercredis soirs à 20h55 sur AB1 et AB Explore en Belgique, pour tous vos auditeurs en Belgique. AB1, AB Explore, chaîne du groupe Media One. On nous a demandé, ça, j'ai gagné une piscine maintenant. On m'a demandé de le dire, je l'ai dit. On est également tous les samedis soirs à partir de 20h55 sur AB1 et AB Explore pour SmackDown dans un premier temps, puis NXT UK. Raw et SmackDown, ce sont les deux gros shows de la WWE. Ils sont différents par les couleurs, en fait. Il y a un show rouge, un show bleu, mais ce sont des superstars qui sont soit d'un côté, soit de l'autre. Et NXT UK, c'est le show européen qui se déroule à Londres avec des catcheurs européens et notamment une catcheuse française, Amal, qui est la première catcheuse française de l'histoire de la WWE.
Alors, ce qu'on adore dans ces 3 rendez-vous, c'est que vous donnez tout ce que vous avez, vous doublez, vous commentez les programmes, et parfois, vous prenez ce qu'avait appelé le comédien Nicolas Maury. Vous voyez qui c'est Nicolas Maury? Vous voyez qui c'est ou pas? C'est lui qui joue Hervé dans 10%.
Ah très bien, j'adore.
L'agent très efféminé avec la petite voix.
J'adore.
Et il nous a dit, moi je sais faire la voix testiculaire. Mais vous, la voix testiculaire, vous l'avez tout le temps.
C'est lui.
Extrait.
Oh, c'est lourd tout ça.
Il s'est répondu. Mais attention, le coup de la corde à linge, Damien Priest qui vient de passer.
Par-dessus la troisième corde.
Styles avec le tacle glissé, le coup de genou qui envoie le crâne de Priest directement dans le poteau.
Et Styles
qui se lance.
Le coup d'avant-bras, attention,
il est passé
par-dessus la barrière d'insécurité.
Quelle efficacité.
Vous avez des petits tips comme Céline Dion, comment vous faites avec votre voix?
Ben, je l'ai cassé très jeune, à l'âge de 20 ans, je l'ai cassé pour la première fois et depuis, elle tient le coup.
Un match du PSG ou en commentant du catch?
Ah non, attention, déjà moi, je suis strasbourgeois.
Faites
donc
gaffe, c'est un match de Strasbourg ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Racing Club de Strasbourg avant tout, un seul amour et pour toujours. C'est en commentant du catch chez moi, dans mon salon avec mes camarades d'enfance. Parce que c'est comme ça que j'ai débuté, moi, en commentant devant ma télé tout seul avec mes potes.
Vous l'avez sur le t-shirt, Philippe Chéreau, par-dessus la troisième corde. Est-ce que le ring sert encore à quelque chose ou est-ce que c'est un espace fictif?
Ah non, le ring c'est...
Non, on a vu des combats où 70% se passaient en dehors du ring.
Ah mais c'est en fonction des stipulations. Et puis il y a des superstars qui sont connus pour fuir. Moi je les appelle les plombiers parce qu'ils sont dans la fuite, vous voyez ce que je veux dire.
Ah, voilà. Comprendre.
On y est, c'était la WWE Show of the Week.
Voilà, donc ça c'est un peu les vannes qu'on fait. Alors donc il y a des stipulations où en effet ça doit se passer à l'extérieur, où on a le droit d'aller à l'extérieur. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent, il y a des interventions. Voilà, et chaque match doit être surprenant en fait.
C'est le principe du toujours surprendre.
Les
matchs sont les mêmes.
Surprendre et divertir.
On voit des commentateurs américains à l'image. Qui sont-ils? C'est des stars là-bas?
Bien sûr. Après, ça dépend de leur niveau d'expérience, mais certains d'entre eux sont extrêmement célèbres, comme Michael Cole, par exemple, ou Pat McAfee du côté de SmackDown. Pat McAfee, qui est un ancien joueur de NFL, qui est le plus grand putter de l'histoire, dit-on, et qui a signé le plus grand contrat de l'histoire des podcasts aux États-Unis. et qui a été recruté par la WWE parce qu'il était fan de catch et c'était son rêve d'être catcheur ou commentateur.
J'ai juste donné un chiffre pour qui pense qu'on parle de quelque chose d'un média de niche. La WWE affirme avoir atteint et dépassé l'an dernier, donc c'est l'organisation aux États-Unis, le revenu,
oui, chiffre
d'affaires, le revenu d'un milliard de dollars.
Tout à fait.
Ah oui, il semble.
Ils sont très présents sur les réseaux sociaux depuis le départ parce que eux ont peut-être compris avant tout le monde que justement les réseaux sociaux et ce qu'on appelle le deuxième ou troisième écran étaient justement quelque chose de supplémentaire, qu'on allait regarder la télé et commenter en même temps sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais eu peur des réseaux sociaux, ils les ont mis en avant, et tous les ans d'ailleurs, ils ont tous les prix, parce qu'il y a une communauté internationale, et en France aussi, on a une communauté française qui est magnifique, qui est bienveillante, on a vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, on les remercie, parce que franchement, ils sont top.
Ce son, c'est Christophe Ajus qui fait des bisous
au
micro.
Oui, je fais des bisous, non pas au micro, à l'univers francophone de la WWE.
Heureusement qu'il y a la bonnette. qu'est-ce que je voulais dire ? Combien de gens vous suivent sur les réseaux ?
Oh, pas assez, malheureusement. Mais il faut dire qu'on est beaucoup moins divertissant que les superstars. Hein. On est à peu près, oui, moi je suis à un peu 70 000, 80 000 sur les différents réseaux.
Ouais, en cumulé, pareil, 100 000 à peu près. Ouais.
Voilà, Philippe, c'est plus.
Voilà. Alors, le catch, c'est beaucoup de décorum, beaucoup d'à côté. Il y a la musique, on l'a dit. Il y a les costumes, on ne l'avait pas dit. Il y a toutes les relations, les moments de comédie entre les catcheurs, vous l'avez dit. Et on a parfois l'impression d'être davantage dans une télé-réalité, voire une telenovela. Exemple, un échange entre Kevin Steen, celui qui prétend s'appeler Ezekiel. Kevin pense avoir reconnu un autre catcheur.
Elias.
Attends, t'es Elias ? Non, je ne suis pas Elias. Non, t'es Elias. Non, je suis le plus jeune frère d'Elias. Ezekiel. Non, non, t'es Elias. T'es Elias, arrête de mentir.
Je déteste les menteurs.
Alors, tu dois pas t'aimer beaucoup toi-même.
Quelle réplique ? Je la note, celle-là.
Là, on n'est pas dans le sport, on est chez les Marseillais.
Ah oui, non, attention, un peu de respect quand même. Les Marseillais, non, mais on les embrasse chaleureusement. Les,
non,
Marseillais, les Marseillais de la télé-réalité, j'entends
évidemment,
bien, j'ai bien compris.
Pas les Marseillais de la ville de Marseille,
bien
les
sûr,
Marseillais, ceux qui sont,
bien.
Ils sont motivés.
Non, mais ça fait...
ils sont dans l'aventure.
Vous faites la journée de Philippe.
Ah,
hein,
non,
vraiment,
moi,
Philippe,
je bois du petit lait, moi. Voilà.
Mais non, mais ça fait partie du spectacle. C'est en fait, alors déjà, avant que vous vous fassiez détruire par la communauté catch, c'était Kevin Owens qui s'adressait à Ezekiel.
Merci.
Qui se fait, Kevin Steen, c'est son vrai nom. Hein, donc,
d'accord.
Vous avez regardé sur Wikipédia et vous avez, voilà. Et Ezekiel se fait passer. Enfin non, il avait un autre nom avant. Enfin bref.
Vous voyez, il a même réussi à troubler Christophe.
Ah, oui.
C'est pour vous dire si le jeu est important. Mais vous avez relevé quelque chose qui est souvent sous-estimé. La force. Des superstars qui, parce qu'ils sont au contact du public toutes les semaines, dans des conditions parfois qui ne sont pas faciles, arrivent à parfois se transcender. Ce n'est pas pour rien pour... aujourd'hui, on a un Dwayne Johnson qu'on a connu, nous, qu'on a vu débuter en tant que The Rock, qui est hyper bankable, le plus bankable à Hollywood. Et le gars, en fait, même aujourd'hui, quand il revient sur le ring, c'est le Patrick Bruel du ring, hein, il commence ses phrases et vous avez 15 000, 20 000 personnes qui les finissent, ou 100 000 quand on est à WrestleMania.
Juste un mot, puisque c'est quand même du sport, parce que là, on se moque un tout petit peu, mais il faut reconnaître que l'équipe sont vraiment des athlètes. Ce qu'ils font, c'est dingue.
Ah oui,
il y a même
sûr.
L'avertissement, ne faites surtout pas ça chez vous.
Bien
on peut être catcheur jusqu'à quel âge ? Parce que...
De nos jours, il n'y a plus d'âge. Ouais. C'est terrible aujourd'hui parce qu'on a
des
superstars
de 50
ans. Il n'y a pas des
questions de ça. Il n'y a pas des questions de ligaments et de il faut
mais
pouvoir supporter
juste,
les chocs.
Si, bien sûr. Mais le truc, c'est que ces hommes et ces femmes s'entraînent depuis tellement longtemps et à des niveaux tellement élevés qu'ils sont capables de faire ça très très longtemps.
Ouais.
À une époque, une superstar prenait sa retraite à 40 ans. C'est comme en foot. Certains finissaient même à 30 ans. Et puis aujourd'hui, on en a à 50 ans. Alors ils viennent pas
non,
tous
attendez,
les jours.
Si vous mettez un footballeur de 50 ans sur un terrain, il touche plus un caramel.
Oui, mais
il,
là,
il voit pas un ballon.
C'est
j'en connais qui ont 20 ans qui ne touchent pas un caramel.
En plus, déjà 20 ans, c'est pas sûr.
C'est pas sympa de balancer vos enfants.
Non, je parlais de Strasbourg. Mais c'est...
Merci. Quoi qu'il en soit, non, mais c'est la force du catch, c'est que c'est du spectacle. Donc, c'est de la mise en scène. Donc, on peut mettre en valeur même une superstar de 50 ans si elle a le physique.
Et vous l'avez dit, des hommes et des femmes, il y a des catcheurs, il y a des catcheuses. J'espère que je ne me trompe pas. La reine Zelina, elle existe bien.
Tout à fait.
Bianca Belair, elle existe.
Tout à fait.
Elles sont tombées l'une contre l'autre.
Elle est désormais sur son cou, elle est sur sa gorge, elle essaye de l'asphyxier, la reine Zelina reprit le dessus. On met la force de Bianca avec la reine sur son dos comme s'il n'y avait personne. On renvoie au sol, on pousse avec un front kick énorme. Oh attention, ça va faire mal ça. Oh là là.
Alors c'est vrai que c'est un petit gabarit hein, Zelina,
vrai.
Mais tout de même... Avec quelle facilité elle l'a balancé de l'autre côté du ring avec ce Paloway Slam.
Les femmes représentent quelle part des problèmes de catch aux USA? C'est une niche ou ça fait vraiment partie du spectacle?
Ah non, ça fait partie du spectacle, autant, effectivement. Ouais,
autant,
quasiment 50%. Ouais, quasiment.
Autant, aujourd'hui, elles font des main events et il y a même des matchs.
C'est-à-dire le dernier
le
match
du spectacle.
Ouais, celui qu'on vend auprès des gens qui vont acheter des billets.
Ah non, c'est top. Il y a quelques années, c'est vrai, il faut le dire, c'était un peu compliqué. On était dans la mode des divas, en plus pour le physique que pour le côté athlétique. Aujourd'hui, elles sont l'équivalent. Et ce qu'elles font dans le ring, c'est quasiment l'égal de ce que font les hommes.
Et la part du public féminin dans votre public, ça sera ma dernière question.
Alors, c'est compliqué à dire. Si j'en crois les statistiques de certains réseaux sociaux, je crois que c'est du 60-40. 60% hommes, ouais. 40% femmes. Mais après, ça dépend vraiment des shows et des événements.
Main Event, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le Main Event, ça sera demain soir à l'Accor Arena. Le WWE Live et le catch sur AB1, c'est le mercredi et le samedi à 20h55. Quel bonheur d'entendre cette musique. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Chéreau, Christophe Ajus.
Merci pour
Philippe
votre invitation.
Voilà, et je vais regarder différemment le PSG.
Il faudrait aussi que
le
vous appreniez
PSG. Je pourrais pas, j'aurais pas le temps.
Troisième corde.
J'y arriverai pas. Oh. On le fera la prochaine fois. Vous allez revenir pour les 25 ans. Culture Média continue après les infos de 10h, les télescopages de Bruno Donnet. Et ce matin, il va essayer de nous dresser le bilan, sans mentir, d'une semaine médiatique qui a eu beaucoup de difficultés avec la vérité. Notre invité, c'est Yves Bigot, c'est le patron de TV5 Monde, mais c'est aussi un immense connaisseur de la musique. Et sa biographie, qui avait été déjà très repérée il y a 10 ans de Michel Berger, ressort, édition augmentée avec plein de nouvelles infos dedans, notamment la révélation du dernier amour de Michel Berger dans Les Indispensables. Ça n'a aucun rapport. On va parler de fromage de chef, de Tour de France et de Downton Abbey. Je vous jure que c'est vrai. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.